Certes, l'étendue de cet amour, Swann n'en avait pas une conscience directe. Quand il cherchait à le mesurer, il lui arrivait parfois qu'il semblât diminuer, presque réduit à rien. Par exemple, le peu de goût, presque le dégoût que lui avait inspiré avant qu'il aimât Odette, ses traits expressifs, son teint sans fraîcheur, lui revenait à certains jours. Vraiment, il y a progrès sensible, se disait-il le lendemain. À voir exactement les choses, je n'avais presque aucun plaisir hier à être dans son lit. C'est curieux, je la trouvais même laide. Et certes, il était sincère, mais son amour s'étendait bien au-delà des régions du désir physique. La personne même d'Odette n'y tenait plus une grande place. Quand du regard il rencontrait sur sa table la photographie d'Odette, ou quand elle venait le voir, il avait peine à identifier la figure de Cher ou de Bristol avec le trouble douloureux et constant qui habitait en lui. Il se disait presque avec étonnement « c'est elle ». Comme si, tout d'un coup, on nous montrait extérioriser devant nous une de nos maladies et que nous ne la trouvions pas ressemblante à ce que nous souffrons. Elle. Il essayait de se demander ce que c'était, car c'est une ressemblance de l'amour et de la mort, plutôt que celle si vague que l'on redit toujours, de nous faire interroger plus avant, dans la peur que sa réalité se dérobe, le mystère de la personnalité. Et cette maladie qu'était l'amour de Swann avait tellement multiplié, il était si étroitement mêlé à toutes les habitudes de Swann, à tous ses actes, à sa pensée, à sa santé, à son sommeil, à sa vie, même à ce qu'il désirait pour après sa mort, il ne faisait tellement plus qu'un avec lui, qu'on aurait pu l'arracher de lui sans le détruire lui-même à peu près tout entier. Comme on dit en chirurgie, son amour n'était plus opérable. Par cet amour, Swann avait été tellement détaché de tous les intérêts que quand par hasard il retournait dans le monde en se disant que ses relations, comme une monture élégante qu'elle n'aurait pas d'ailleurs su estimer très exactement, pouvaient lui rendre à lui-même un peu de prix aux yeux d'Odette. Et ça aurait peut-être été vrai, en effet, si elle n'avait pas été avilie par cet amour même, qui pour Odette dépréciait toutes les choses qu'il touchait par le fait qu'il semblait les proclamer moins précieuses. Il y éprouvait, à côté de la détresse d'être dans des lieux au milieu de gens qu'elle ne connaissait pas, le plaisir désintéressé qu'il aurait pris à un roman ou à un tableau où sont peints les divertissements d'une classe oisive. Comme chez lui, il se complaisait à considérer le fonctionnement de sa vie domestique, l'élégance de sa garde-robe et de sa livrée, le bon placement de ses valeurs, de la même façon qu'à lire dans Saint-Simon, qui était un de ses auteurs favoris, la mécanique des journées, le menu des repas de Madame de Maintenon, ou l'avarice avisée et le grand train de Lully. Et dans la faible mesure où ce détachement n'était pas absolu, la raison de ce plaisir nouveau que goûtait Swann, c'était de pouvoir émigrer un moment dans les rares parties de lui-même, rester presque étrangère à son amour, à son chagrin. À cet égard, cette personnalité que lui attribuait ma grand-tante de fils Swann, distincte de la personnalité plus individuelle de Charles Swann, était celle où il se plaisait maintenant le mieux. Un jour que pour l'anniversaire de la princesse de Parme, et parce qu'elle pouvait souvent être indirectement agréable à Odette en lui faisant avoir des places pour des galas, des jubilés, il avait voulu lui envoyer des fruits, ne sachant pas trop comment les commander, il en avait chargé une cousine de sa mère, qui, ravie de faire une commission pour lui, lui avait écrit, en lui rendant compte, qu'elle n'avait pas pris tous les fruits au même endroit. Mais les raisins chez Crapote, dont c'est la spécialité, les fraises chez Jauret, les poires chez Chevet, où elles étaient plus belles, etc. Chaque fruit visité est examiné un par un par mois. Et en effet, par les remerciements de la princesse, il avait pu juger du parfum des fraises et du moelleux des poires. Mais surtout, le chaque fruit visité et examiné un par moi avait été un apaisement à sa souffrance, en emmenant sa conscience dans une région où il se rendait rarement, bien qu'elle lui appartînt comme héritier d'une famille de riche et bonne bourgeoisie où s'était conservé héréditairement, tout prêt à être mis à son service dès qu'il le souhaitait, la connaissance des bonnes adresses et l'art de savoir bien faire une commande. Certes, il avait trop longtemps oublié qu'il était le fils Swann pour ne pas ressentir, quand il le redevenait un moment, un plaisir plus vif que ceux qu'il eût pu éprouver le reste du temps, et sur lesquels il était blasé. Et si l'amabilité des bourgeois, pour lesquels il restait surtout ceux-là, était moins vive que celle de l'aristocratie, mais plus flatteuse d'ailleurs, car chez eux du moins elle ne se sépare jamais de la considération, une lettre d'altesse, quelques divertissements princiers qu'elle lui proposa ne pouvaient lui être aussi agréables que celle qui lui demandait d'être témoin ou seulement d'assister à un mariage dans la famille de vieux amis de ses parents, dont les uns avaient continué à le voir, comme mon grand-père qui l'année précédente l'avait invité au mariage de ma mère, et dont certains autres le connaissaient personnellement à peine, mais se croyaient des devoirs de politesse envers le fils, envers le digne successeur de feu, Monsieur Swann. Mais par les intimités des gens anciennes qu'il avait parmi eux, les gens du monde, dans une certaine mesure, faisaient aussi partie de sa maison, de son domestique et de sa famille. Il se sentait à considérer ses brillantes amitiés le même appui hors de lui-même, le même confort qu'à regarder les belles terres, la belle argenterie, le beau linge de table qui lui venait des siens. Et la pensée que s'il tombait chez lui frappé d'une attaque, ce serait tout naturellement le duc de Chartres, le prince de Russe, le duc de Luxembourg et le baron de Charlus, que son valet de chambre courrait chercher, lui apporter la même consolation qu'à notre vieille Françoise, de savoir qu'elle serait ensevelie dans des draps fins à elle, marqués, non reprisés, ou si finement que cela ne donnait qu'une plus haute idée du soin de l'ouvrière. Linceul de l'image fréquente duquel elle tirait une certaine satisfaction, sinon de bien-être, au moins d'amour-propre. Mais surtout, dans toutes celles de ses actions et de ses pensées qui se rapportaient à Odette, Swann était constamment dominé et dirigé par le sentiment inavoué qu'il ne lui était peut-être pas moins cher, mais moins agréable à voir que quiconque, que le plus ennuyeux fidèle des Verdurin, quand il se reportait à un monde pour qui il était l'homme exquis par excellence, qu'on faisait tout pour attirer, qu'on se désolait de ne pas voir. Il recommençait à croire à l'existence d'une vie plus heureuse, presque à éprouver l'appétit, comme il arrive à un malade alité depuis des mois, à la diète, et qui aperçoit dans un journal le menu d'un déjeuner officiel ou l'annonce d'une croisière en Sicile. S'il était obligé de donner des excuses aux gens du monde pour ne pas leur faire de visite, c'était de lui en faire qu'il cherchait à s'excuser auprès d'Odette. Encore les payait-il, se demandant à la fin du mois, pour peu qu'il eût un peu abusé de sa patience et fût allé souvent la voir, si c'était assez de lui envoyer 4 000 francs. Et pour chacune trouver un prétexte, un présent à lui apporter, un renseignement dont elle avait besoin, Monsieur de Charlus, qu'il avait rencontré allant chez elle, et qui avait exigé qu'il l'accompagnât. Et à défaut d'aucun, il priait Monsieur de Charlus de courir chez elle, de lui dire comme spontanément au cours de la conversation qu'il se rappelait avoir à parler à Swann, qu'elle voulut bien lui faire demander de passer tout de suite chez elle. Mais le plus souvent, Swann attendait en vain, et Monsieur de Charlus lui disait le soir que son moyen n'avait pas réussi. de sorte que si elle faisait maintenant de fréquentes absences, même à Paris, quand elle y restait, elle le voyait peu, et elle qui, quand elle l'aimait, lui disait « Je suis toujours libre », et « Qu'est-ce que l'opinion des autres peut me faire ?» Maintenant, chaque fois qu'il voulait la voir, elle invoquait les convenances ou prétextait des occupations. Quand il parlait d'aller à une fête de charité, à un vernissage, à une première, où elle serait, elle lui disait qu'il voulait afficher leur liaison, qu'il la traitait comme une fille. C'est au point que, pour tâcher de n'être pas partout privé de la rencontrer, Swann, qui savait qu'elle connaissait et affectionnait beaucoup mon grand-oncle Adolphe, dont il avait été lui-même l'ami, alla le voir un jour dans son petit appartement de la rue de Bellechasse, afin de lui demander d'user de son influence sur Odette. Comme elle prenait toujours, quand elle parlait à Swann de mon oncle, des airs poétiques, disant « Ah, lui, ce n'est pas comme toi. C'est une si belle chose, si grande, si jolie que son amitié pour moi. Ce n'est pas lui qui me considérerait assez peu pour vouloir se montrer avec moi dans tous les lieux publics. » Swann fut embarrassé et ne savait pas à quel ton il devait se hausser pour parler d'elle à mon oncle. Il posa d'abord l'excellence a priori d'Odette, l'axiome de sa suprahumanité séraphique, la révélation de ses vertus indémontrables et dont la notion ne pouvait dériver de l'expérience. « Je veux parler avec vous. Vous savez quelle femme au-dessus de toutes les femmes, quel être adorable, quel ange est Odette. Mais vous savez ce que c'est que la vie de Paris. Tout le monde ne connaît pas Odette sous le jour où... nous la connaissons, vous et moi. Alors, il y a des gens qui trouvent que je joue un rôle un peu ridicule. Elle ne peut même pas admettre que je la rencontre dehors, au théâtre. Vous, en qui elle a tant de confiance, ne pourriez-vous lui dire quelques mots pour moi, lui assurer qu'elle s'exagère le tort qu'un salut de moi lui cause ? Mon oncle conseilla à Swann de rester un peu sans voir Odette, qui ne l'en aimerait que plus, et à Odette de laisser Swann la retrouver partout où cela lui plairait. Quelques jours après, Odette disait à Swann qu'elle venait d'avoir une déception, en voyant que mon oncle était pareil à tous les hommes, il venait d'essayer de la prendre de force. Elle calma Swann, qui au premier moment voulait aller provoquer mon oncle, mais il refusa de lui serrer la main quand il le rencontra. Il regretta d'autant plus cette brouille avec mon oncle Adolphe, qu'il avait espéré, s'il l'avait revu quelquefois, et avait pu causer en toute confiance avec lui, tâcher de tirer au clair certains bruits relatifs à la vie qu'Odette avait menée autrefois à Nice. Or, mon oncle Adolphe y passait l'hiver, et Swann pensait que c'était même peut-être là qu'il avait connu Odette. Le peu qui avait échappé à quelqu'un devant lui relativement à un homme qui aurait été l'amant d'Odette avait bouleversé Swann. Et les choses qu'il aurait, avant de les connaître, trouvé le plus affreux d'apprendre et le plus impossible de croire, une fois qu'il les savait, elles étaient incorporées à tout jamais à sa tristesse. Il les admettait, il n'aurait plus pu comprendre qu'elles n'eussent pas été. Seulement chacune opérait sur l'idée qu'il se faisait de sa maîtresse une retouche ineffaçable. Il crut même comprendre une fois que cette légèreté des mœurs d'Odette qu'il n'eût pas soupçonnée était assez connue, et qu'à Bade et à Nice, quand elle y passait jadis plusieurs mois, elle avait eu une sorte de notoriété galante. Il chercha pour les interroger à se rapprocher de certains viveurs, mais ceux-ci savaient qu'ils connaissaient Odette, et puis il avait peur de les faire penser de nouveau à elle, de les mettre sur ses traces. Mais lui, à qui jusque-là, rien n'aurait pu paraître aussi fastidieux que tout ce qui se rapportait à la vie cosmopolite de Bade ou de Nice, Apprenant qu'Odette avait peut-être fait autrefois la fête dans ces villes de plaisir, sans qu'il dût jamais arriver à savoir si c'était seulement pour satisfaire à des besoins d'argent que, grâce à lui, elle n'avait plus, ou à des caprices qui pouvaient renaître, maintenant il se penchait avec une angoisse impuissante, aveugle et vertigineuse, vers l'abîme sans fond où étaient allées s'engloutir ces années du début du septennat, pendant lesquelles on passait l'hiver sur la promenade des Anglais, l'été sous les tilleuls de Bade, et il leur trouvait une profondeur douloureuse mais magnifique, comme celle que leur eût prêtée un poète, et il eût mis à reconstituer les petits faits de la chronique de la Côte d'Azur d'alors, si elle avait pu l'aider à comprendre quelque chose du sourire ou des regards, pourtant si honnête et si simple, d'Odette. Plus de passion que l'esthéticien qui interroge les documents subsistants de la Florence du XVe siècle pour tâcher d'entrer plus avant dans l'âme de la Primavera, de la Bella Vanna ou de la Vénus de Botticelli. Souvent, sans lui rien dire, il la regardait, il songeait. Elle lui disait « Comme tu as l'air triste !» Il n'y avait pas bien longtemps encore de l'idée qu'elle était une créature bonne, analogue au meilleur qu'il eût connu. Il avait passé à l'idée qu'elle était une femme entretenue. Inversement, il lui était arrivé depuis de revenir de l'Odette de Crécy, peut-être trop connue des fêtards, des hommes à femmes, à ce visage, d'une expression parfois si douce, à cette nature si humaine. Il se disait « Qu'est-ce que cela veut dire qu'à Nice tout le monde sache qui est Odette de Crécy ?» Ces réputations-là, même vraies, sont faites avec les idées des autres. Il pensait que cette légende, fût-elle authentique, était extérieure à Odette, n'était pas en elle comme une personnalité irréductible et malfaisante, que la créature qui avait pu être amenée à mal faire, c'était une femme aux bons yeux, au cœur plein de pitié pour la souffrance, au corps docile qu'il avait tenu, qu'il avait serré dans ses bras et manié, une femme qu'il pourrait arriver un jour à posséder toute, s'il réussissait à se rendre indispensable à elle. Elle était là, souvent fatiguée, le visage vidé pour un instant de la préoccupation fébrile et joyeuse des choses inconnues, qui faisait souffrir Swann. Elle écartait ses cheveux avec ses mains, son front, sa figure paraissait plus large. Alors tout d'un coup, quelques pensées simplement humaines, quelques bons sentiments comme il en existe dans toutes les créatures, quand dans un moment de repos ou de repliement elles sont livrées à elles-mêmes, jaillissaient de ses yeux comme un rayon jaune. Et aussitôt tout son visage s'éclairait comme une campagne grise couverte de nuages qui soudain s'écarte pour sa transfiguration au moment du soleil couchant. La vie qui était en Odette à ce moment-là, l'avenir même qu'elle semblait rêveusement regarder, Swann aurait pu les partager avec elle. Aucune agitation mauvaise ne semblait y avoir laissé de résidus. Si rares qu'ils devinssent, ces moments-là ne furent pas inutiles. Par le souvenir, Swann reliait ses parcelles, abolissait les intervalles, coulait comme en or une Odette de bonté et de calme, pour laquelle il fit plus tard, comme on le verra dans la deuxième partie de cet ouvrage, des sacrifices que l'autre Odette n'eût pas obtenus. Mais que ces moments étaient rares et que maintenant il la voyait peu. Même pour le rendez-vous du soir, elle ne lui disait qu'à la dernière minute si elle pourrait le lui accorder, car comptant qu'elle le trouverait toujours libre, elle voulait d'abord être certaine que personne d'autre ne lui proposerait de venir. Elle alléguait qu'elle était obligée d'attendre une réponse de la plus haute importance pour elle, et même si après qu'elle avait fait venir Swann des amis demander à Odette, quand la soirée était déjà commencée, de les rejoindre au théâtre ou à souper, elle faisait un bond joyeux et s'habillait à la hâte. Au fur et à mesure qu'elle avançait dans sa toilette, Chaque mouvement qu'elle faisait rapprochait Swann du moment où il faudrait la quitter, où elle s'enfuirait d'un élan irrésistible. Et quand, enfin prête, plongeant une dernière fois dans son miroir ses regards tendus et éclairés par l'attention, elle remettait un peu de rouge à ses lèvres, fixait une mèche sur son front et demandait son manteau de soirée bleu ciel avec des glands d'or, Swann avait l'air si triste qu'elle ne pouvait réprimer un geste d'impatience et disait « Voilà comme tu me remercies de t'avoir gardé jusqu'à la dernière minute. Moi qui croyais avoir fait quelque chose de gentil, c'est bon à savoir pour une autre fois. » Parfois, au risque de la fâcher, il se promettait de chercher à savoir où elle était allée. Il rêvait d'une alliance avec Forcheville qui peut-être aurait pu le renseigner. D'ailleurs, quand il savait avec qui elle passait la soirée, il était bien rare qu'il ne pût pas découvrir dans toutes ses relations à lui quelqu'un qui connaissait, fût-ce indirectement, l'homme avec qui elle était sortie et pouvait facilement en obtenir tel ou tel renseignement. Et tandis qu'il écrivait à un de ses amis pour lui demander de chercher à éclaircir tel ou tel point, il éprouvait le repos de cesser de se poser ces questions sans réponse et de transférer à un autre la fatigue d'interroger. Il est vrai que Swann n'était guère plus avancé quand il avait certains renseignements. Savoir ne permet pas toujours d'empêcher, mais du moins les choses que nous savons, nous les tenons, sinon entre nos mains, du moins dans notre pensée, où nous les disposons à notre gré, ce qui nous donne l'illusion d'une sorte de pouvoir sur elles. Il était heureux toutes les fois où M. de Charlus était avec Odette. Entre M. de Charlus et elle, Swann savait qu'il ne pouvait rien se passer, que quand M. de Charlus sortait avec elle, c'était par amitié pour lui, et qu'il ne ferait pas difficulté à lui raconter ce qu'elle avait fait. Quelquefois, elle avait déclaré si catégoriquement à Swann qu'il lui était impossible de le voir un certain soir, elle avait l'air de tenir tant à une sortie, que Swann attachait une véritable importance à ce que M. de Charlus fût libre de l'accompagner. Le lendemain, sans oser poser beaucoup de questions à M. de Charlus, il le contraignait, en ayant l'air de ne pas bien comprendre ses premières réponses, à lui en donner de nouvelles. Après chacune d'elles, il se sentait plus soulagé, car il apprenait bien vite qu'Odette avait occupé sa soirée aux plaisirs les plus innocents. « Mais comment, mon petit mémé, je ne comprends pas bien ?» Ce n'est pas en sortant de chez elle que vous êtes allé au musée Grévin? Vous étiez allé ailleurs d'abord? Non? Oh que c'est drôle! Vous ne savez pas comme vous m'amusez, mon petit mémé. Mais quelle drôle d'idée elle a eue d'aller ensuite au chat noir! C'est bien une idée d'elle! Non? C'est vous? C'est curieux! Après tout, ce n'est pas une mauvaise idée. Elle devait y connaître beaucoup de monde. Non? Elle n'a parlé à personne? C'est extraordinaire. Alors vous êtes restés là, comme cela, tous les deux, tout seuls? Je vois d'ici cette scène. Vous êtes gentil, mon petit mémé. Je vous aime bien. Swann se sentait soulagé. Pour lui, à qui il était arrivé, en causant avec des indifférents qu'il écoutait à peine d'entendre quelquefois certaines phrases, celle-ci par exemple, « J'ai vu hier Madame de Crécy, elle était avec un monsieur que je ne connais pas. » Phrase qui aussitôt, dans le cœur de Swann, passait à l'état solide, s'y durcissait comme une incrustation, le déchirait, n'en bougeait plus. Qu'ils étaient doux, au contraire, ces mots, elle ne connaissait personne, elle n'a parlé à personne. Comme ils circulaient aisément en lui, qu'ils étaient fluides, faciles, respirables. Et pourtant, au bout d'un instant, il se disait qu'Odette devait le trouver bien ennuyeux pour que ce fussent là les plaisirs qu'elle préférait à sa compagnie. Et leur insignifiance, si elle le rassurait, lui faisait pourtant de la peine, comme une trahison. Même quand il ne pouvait savoir où elle était allée, il lui aurait suffi pour calmer l'angoisse qu'il éprouvait alors et contre laquelle la présence d'Odette, la douceur d'être auprès d'elle était le seul spécifique, un spécifique qui à la longue aggravait le mal avec bien des remèdes, mais du moins calmer momentanément la souffrance. Il lui aurait suffi, si Odette l'avait seulement permis, de rester chez elle tant qu'elle ne serait pas là, de l'attendre jusqu'à cette heure du retour, dans l'apaisement de laquelle seraient venues se confondre les heures qu'un prestige, un maléfice, lui avait fait croire différentes des autres. Mais elle ne le voulait pas. Il revenait chez lui, il se forçait en chemin à former divers projets, il cessait de songer à Odette. Même il arrivait, tout en se déshabillant, à rouler en lui des pensées assez joyeuses. C'est le cœur plein de l'espoir d'aller le lendemain voir quelque chef-d'œuvre qu'il se mettait au lit et éteignait sa lumière. Mais dès que pour se préparer à dormir, il cessait d'exercer sur lui-même une contrainte dont il n'avait même pas conscience, tant elle était devenue habituelle, au même instant un frisson glacé refluait en lui, et il se mettait à sangloter. Il ne voulait même pas savoir pourquoi, s'essuyait les yeux, se disait en riant « C'est charmant, je deviens névropathe ». Mais il ne pouvait penser sans une grande lassitude que le lendemain il faudrait recommencer de chercher à savoir ce qu'Odette avait fait, à mettre en jeu des influences pour tâcher de la voir. Cette nécessité d'une activité sans trêve, sans variété, sans résultat, lui était si cruelle qu'un jour, apercevant une grosseur sur son ventre, il ressentit une véritable joie à la pensée qu'il avait peut-être une tumeur mortelle, qu'il n'allait plus avoir à s'occuper de rien, que c'était la maladie qui allait le gouverner, faire de lui son jouet, jusqu'à la fin prochaine. Et en effet, si à cette époque il lui arriva souvent, sans se l'avouer, de désirer la mort, c'était pour échapper moins à l'acuité de ses souffrances qu'à la monotonie de son effort. Et pourtant, il aurait voulu vivre jusqu'à l'époque où il ne l'aimerait plus, où elle n'aurait aucune raison de lui mentir, et où il pourrait enfin apprendre d'elle si, le jour où il était allé la voir dans l'après-midi, elle était ou non couchée avec Forcheville. Souvent, pendant quelques jours, le soupçon qu'elle aimait quelqu'un d'autre le détournait de se poser cette question relative à Forcheville, la lui rendait presque indifférente, comme ces formes nouvelles d'un même état maladif qui semble momentanément nous avoir délivré des précédentes. Même il y avait des jours où il n'était tourmenté par aucun soupçon, il se croyait guéri. Mais le lendemain matin, au réveil, il sentait à la même place la même douleur, dont la veille pendant la journée il avait comme dilué la sensation dans le torrent des impressions différentes. Mais elle n'avait pas bougé de place, et même c'était l'acuité de cette douleur qui avait réveillé Swann. Comme Odette ne lui donnait aucun renseignement sur ces choses si importantes qu'il occupait tant chaque jour, bien qu'il eût assez vécu pour savoir qu'il n'y en a jamais d'autres que les plaisirs, il ne pouvait pas chercher longtemps de suite à les imaginer, son cerveau fonctionnait à vide. Alors il passait son doigt sur ses paupières fatiguées comme il aurait essuyé le verre de son lorgnon et cessait entièrement de penser. Il surnageait pourtant à cet inconnu certaines occupations qui réapparaissaient de temps en temps, vaguement rattachées par elle à quelque obligation envers des parents éloignés ou des amis d'autrefois, qui, parce qu'ils étaient les seuls qu'elle lui citait souvent comme l'empêchant de le voir, paraissaient à Swann former le cadre fixe nécessaire de la vie d'Odette. À cause du ton dont elle lui disait de temps à autre « Le jour où je vais avec mon ami à l'hippodrome », si s'étant senti malade et ayant pensé « Peut-être Odette voudrait bien passer chez moi », Il se rappelait brusquement que c'était justement ce jour-là. Il se disait « Ah non, ce n'est pas la peine de lui demander de venir. J'aurais dû y penser plus tôt, c'est le jour où elle va avec son ami à l'hippodrome. Réservons-nous pour ce qui est possible. C'est inutile de s'user à proposer des choses inacceptables et refuser d'avance. » Et ce devoir qui incombait à Odette d'aller à l'hippodrome, et devant lequel Swann s'inclinait ainsi, ne lui paraissait pas seulement inéluctable, mais ce caractère de nécessité dont il était empreint semblait rendre plausible et légitime tout ce qui, de près ou de loin, se rapportait à lui. Si Odette, dans la rue, ayant reçu d'un passant un salut qui avait éveillé la jalousie de Swann, elle répondait aux questions de celui-ci en rattachant l'existence de l'inconnu à un des deux ou trois grands devoirs dont elle lui parlait, si par exemple elle disait « c'est un monsieur qui était dans la loge de mon ami avec qui je vais à l'hippodrome ». Cette explication calmait les soupçons de Swann, qui en effet trouvait inévitable que l'ami eût d'autres invités qu'Odette dans sa loge à l'hippodrome, mais n'avait jamais cherché ou réussi à se les figurer. Ah, comme il eût aimé la connaître, l'ami qui allait à l'hippodrome, et qu'elle l'y emmena avec Odette. Comme il aurait donné toutes ses relations pour n'importe quelle personne qui avait l'habitude de voir Odette, fût-ce une manicure ou une demoiselle de magasin, il eût fait pour elle plus de frais que pour des reines. Ne lui aurait-elle pas fourni, dans ce qu'elle contenait de la vie d'Odette, le seul calmant efficace pour ses souffrances? Comme il aurait couru avec joie passer les journées chez telle de ces petites gens avec lesquelles Odette gardait des relations, soit par intérêt, soit par simplicité véritable, comme il eût volontiers élu domicile à jamais au cinquième étage de telle maison sordide et enviée, où Odette ne l'emmenait pas, et où, s'il avait habité avec la petite couturière retirée dont il eût volontiers fait semblant d'être l'amant, il aurait presque chaque jour reçu sa visite. Dans ces quartiers presque populaires, quelle existence modeste, abjecte, mais douce, mais nourrie de calme et de bonheur, il eût accepté de vivre indéfiniment. Il arrivait encore parfois, quand ayant rencontré Swann, elle voyait s'approcher d'elle quelqu'un qu'il ne connaissait pas, qu'il put remarquer sur le visage d'Odette cette tristesse qu'elle avait eue le jour où il était venu pour la voir pendant que Forcheville était là. Mais c'était rare, car les jours où, malgré tout ce qu'elle avait à faire et la crainte de ce que penserait le monde, elle arrivait à voir Swann, ce qui dominait maintenant dans son attitude était l'assurance. Grand contraste, peut-être revanche inconsciente ou réaction naturelle de l'émotion craintive qu'au premier temps où elle l'avait connue, elle éprouvait auprès de lui, et même loin de lui, quand elle commençait une lettre par ces mots « Mon ami, ma main tremble si fort que je peux à peine écrire ». Elle le prétendait du moins, et un peu de cet émoi devait être sincère pour qu'elle désirât d'en feindre davantage. Swann lui plaisait alors. On ne tremble jamais que pour soi, que pour ce qu'on aime. Quand notre bonheur n'est plus dans leurs mains, de quel calme, de quelle aisance, de quelle hardiesse on jouit auprès d'eux. En lui parlant, en lui écrivant, elle n'avait plus de ces mots par lesquels elle cherchait à se donner l'illusion qui lui appartenait, faisant naître les occasions de dire « mon »,« mien » quand il s'agissait de lui, « vous êtes mon bien ». C'est le parfum de notre amitié, je le garde. De lui parler de l'avenir, de la mort même, comme d'une seule chose pour eux deux. Dans ce temps-là, à tout ce qu'il disait, elle répondait avec admiration « Vous, vous ne serez jamais comme tout le monde. » Elle regardait sa longue tête un peu chauve, dont les gens qui connaissaient les succès de Swann pensaient « Il n'est pas régulièrement beau, si vous voulez, Mais il est chic, ce toupet, ce monocle, ce sourire. Et plus curieuse peut-être de connaître ce qu'il était que désireuse d'être sa maîtresse, elle disait « Si je pouvais savoir ce qu'il y a dans cette tête-là !» Maintenant, à toutes les paroles de Swann, elle répondait d'un ton parfois irrité, parfois indulgent « Ah, tu ne seras donc jamais comme tout le monde !» Elle regardait cette tête qui n'était qu'un peu plus vieillie par le souci, mais dont maintenant tous pensaient, en vertu de cette même aptitude qui permet de découvrir les intentions d'un morceau symphonique dont on a lu le programme, et les ressemblances d'un enfant quand on connaît sa parenté, il n'est pas positivement laid, si vous voulez, mais il est ridicule. Ce monocle, ce toupet, ce sourire. Réalisant dans leur imagination suggestionnée la démarcation immatérielle qui sépare à quelques mois de distance une tête d'amant de cœur et une tête de cocu. Elle disait « Ah, si je pouvais changer, rendre raisonnable ce qu'il y a dans cette tête-là. » Toujours prêt à croire ce qu'il souhaitait, si seulement les manières d'être d'Odette avec lui laissaient place au doute, il se jetait avidement sur cette parole. « Tu le peux si tu le veux, » lui disait-il, et il tâchait de lui montrer que l'apaiser, le diriger, le faire travailler, serait une noble tâche à laquelle ne demandait qu'à se vouer d'autres femmes qu'elle, entre les mains desquelles, il est vrai d'ajouter, que la noble tâche ne lui eût paru plus qu'une indiscrète et insupportable usurpation de sa liberté. Si elle ne m'aimait pas un peu, se disait-il, elle ne souhaiterait pas de me transformer. Pour me transformer, il faudra qu'elle me voie davantage. Ainsi trouvait-il dans ce reproche qu'elle lui faisait comme une preuve d'intérêt, d'amour peut-être. Et en effet, elle lui en donnait maintenant si peu qu'il était obligé de considérer comme telles les défenses qu'elle lui faisait d'une chose ou d'une autre. Un jour, elle lui déclara qu'elle n'aimait pas son cocher, qu'il lui montait peut-être la tête contre elle, qu'en tout cas, il n'était pas avec lui de l'exactitude et de la déférence qu'elle voulait. Elle sentait qu'il désirait lui entendre dire « Ne le prends plus pour venir chez moi », comme il aurait désiré un baiser. Comme elle était de bonne humeur, elle le lui dit. Il fut attendri. Le soir, causant avec M. de Charlus, avec qui il avait la douceur de pouvoir parler d'elle ouvertement, car les moindres propos qu'il tenait, même aux personnes qui ne la connaissaient pas, se rapportait en quelque manière à elle. Il lui dit « Je crois pourtant qu'elle-même, elle est si gentille pour moi. Ce que je fais ne lui est certainement pas indifférent. Et si, au moment d'aller chez elle, montant dans sa voiture avec un ami qu'il devait laisser en route, l'autre lui disait « Tiens, ce n'est pas l'oreillon qui est sur le siège. » Avec quelle joie mélancolique Swann lui répondait « Ah, sapristi, non ! Je te dirai, je ne peux pas prendre l'oreillon quand je vais rue La Pérouse. Odette n'aime pas que je prenne l'oreillon. Elle ne le trouve pas bien pour moi. Enfin, que veux-tu, les femmes ? Tu sais. Je sais que ça lui déplairait beaucoup. Ah bien oui, je n'aurais eu qu'à prendre Rémi, j'en aurais eu une histoire. » Ces nouvelles façons indifférentes, distraites, irritables, qui étaient maintenant celles d'Odette avec lui, certes Swann en souffrait, mais il ne connaissait pas sa souffrance, comme c'était progressivement, jour par jour, qu'Odette s'était refroidie à son égard, ce n'est qu'en mettant au regard de ce qu'elle était aujourd'hui, ce qu'elle avait été au début, qu'il aurait pu sonder la profondeur du changement qui s'était accompli. Or, ce changement, c'était sa profonde, sa secrète blessure, qui lui faisait mal jour et nuit, et dès qu'il sentait que ses pensées allaient un peu trop près d'elle, vivement il les dirigeait d'un autre côté, de peur de trop souffrir. Il se disait bien d'une façon abstraite, il fut un temps où Odette m'aimait davantage. mais jamais il ne revoyait ce temps. De même qu'il y avait dans son cabinet une commode qu'il s'arrangeait à ne pas regarder, qu'il faisait un crochet pour éviter en entrant et en sortant, parce que dans un tiroir était serré le chrysanthème qu'elle lui avait donné le premier soir où il l'avait reconduite, les lettres où elle disait « Que n'y avez-vous oublié aussi votre cœur ? Je ne vous aurais pas laissé le reprendre. Et à quelque heure du jour et de la nuit que vous ayez besoin de moi, faites-moi signe et disposez de ma vie. » De même, il y avait en lui une place dont il ne laissait jamais approcher son esprit, lui faisant faire, s'il le fallait, le détour d'un long raisonnement pour qu'il n'eût pas à passer devant elle. C'était celle où vivait le souvenir des jours heureux. Mais sa si précautionneuse prudence fut déjouée un soir qu'il était allé dans le monde. C'était chez la marquise de Sainte-Verte, à la dernière, pour cette année-là, des soirées où elle faisait entendre des artistes qui lui servaient ensuite pour ses concerts de charité. Swann, qui avait voulu successivement aller à toutes les précédentes et n'avait pu s'y résoudre, avait reçu, tandis qu'il s'habillait pour se rendre à celle-ci, la visite du baron de Charlus qui venait lui offrir de retourner avec lui chez la marquise, si sa compagnie devait l'aider à s'y ennuyer un peu moins, à s'y trouver moins triste. Mais Swann lui avait répondu « Vous ne doutez pas du plaisir que j'aurais à être avec vous, mais le plus grand plaisir que vous puissiez me faire, c'est d'aller plutôt voir Odette. Vous savez l'excellente influence que vous avez sur elle. Je crois qu'elle ne sort pas ce soir avant d'aller chez son ancienne couturière, ou du reste elle sera sûrement contente que vous l'accompagniez. En tout cas, vous la trouveriez chez elle avant. Tâchez de la distraire, et aussi de lui parler raison. Si vous pouviez arranger quelque chose pour demain qui lui plaise, et que nous pourrions faire tous les trois ensemble. Tâchez aussi de poser des jalons pour cet été, si elle avait envie de quelque chose, d'une croisière que nous ferions tous les trois. Que sais-je ? Quant à ce soir, je ne compte pas la voir. Maintenant, si elle le désirait, ou si vous trouviez un joint, vous n'avez qu'à m'envoyer un mot chez Madame de Sainte-Verte jusqu'à minuit, et après chez moi. Merci de tout ce que vous faites pour moi. Vous savez comme je vous aime. » Le baron lui promit d'aller faire la visite qu'il désirait après qu'il l'aurait conduit jusqu'à la porte de l'hôtel Sainte-Verte, où Swann arriva tranquillisé par la pensée que M. de Charlus passerait la soirée rue La Pérouse. Mais dans un état de mélancolique indifférence à toutes les choses qui ne touchaient pas Odette, et en particulier aux choses mondaines, qui leur donnaient le charme de ce qui, n'étant plus un but pour notre volonté, nous apparaît en soi-même. Dès sa descente de voiture, au premier plan de ce résumé fictif de leur vie domestique que les maîtresses de maison prétendent offrir à leurs invités les jours de cérémonie, et où elles cherchent à respecter la vérité du costume et celle du décor, Swann prit plaisir à voir les héritiers des tigres de Balzac, les grooms, suivant ordinaire de la promenade, qui, chapeautés et bottés, restaient dehors devant l'hôtel sur le sol de l'avenue ou devant les écuries, comme des jardiniers auraient été rangés à l'entrée de leur parterre. La disposition particulière qu'il avait toujours eue à chercher des analogies entre les êtres vivants et les portraits des musées s'exerçait encore, mais d'une façon plus constante et plus générale. C'est la vie mondaine tout entière, maintenant qu'il en était détaché, qui se présentait à lui comme une suite de tableaux. Dans le vestibule, où autrefois, quand il était un mondain, il entrait enveloppé dans son pardessus pour en sortir en frac, mais sans savoir ce qui s'y était passé, étant par la pensée, pendant les quelques instants qu'il y séjournait, ou bien encore dans la fête qu'il venait de quitter, ou bien déjà dans la fête où on allait l'introduire. Pour la première fois, il remarqua, réveillé par l'arrivée inopinée d'un invité aussi tardif, la meute éparse, magnifique et désœuvrée de grands valets de pied, qui dormaient çà et là sur des banquettes et des coffres, et qui, soulevant leur noble profil aigu de lévrier, se dressèrent et rassemblés formèrent le cercle autour de lui. L'un d'eux, d'aspect particulièrement féroce et assez semblable à l'exécuteur dans certains tableaux de la Renaissance qui figurent des supplices, s'avança vers lui d'un air implacable pour lui prendre ses affaires. Mais la dureté de son regard d'acier était compensée par la douceur de ses gants de fil. Si bien qu'en approchant de Swann, il semblait témoigner du mépris pour sa personne et des égards pour son chapeau. Il le prit avec un soin auquel l'exactitude de sa pointure donnait quelque chose de méticuleux et une délicatesse que rendait presque touchante l'appareil de sa force. Puis il le passa à un de ses aides, nouveau et timide, qui exprimait l'effroi qu'il ressentait en roulant en tous sens des regards furieux, et montrer l'agitation d'une bête captive dans les premières heures de sa domesticité. À quelques pas, un grand gaillard en livrée, rêvé, immobile, sculptural, inutile, comme ce guerrier purement décoratif qu'on voit dans les tableaux les plus tumultueux de Mantegna, songeait appuyé sur son bouclier tandis qu'on se précipite et qu'on s'égorge à côté de lui. Détaché du groupe de ses camarades qui s'empressaient autour de Swann, il semblait aussi résolu à se désintéresser de cette scène, qu'il suivait vaguement de ses yeux glauques et cruels, que si c'eût été le massacre des innocents ou le martyre de Saint-Jacques. Il semblait précisément appartenir à cette race disparue, ou qui peut-être n'exista jamais que dans le retable de San Zeno et les fresques des Eremitaggi, où Swann l'avait approchée et où elle rêve encore. Issue de la fécondation d'une statue antique par quelque modèle padouan du maître ou quelque saxon d'Albert Dürer. Et les mèches de ses cheveux roux, créplés par la nature mais collés par la brillantine, étaient largement traitées, comme elles sont dans la sculpture grecque qu'étudiait sans cesse le peintre de Mantoue, et qui, si dans la création elle ne figure que l'homme, c'est du moins tiré de ces simples formes des richesses si variées et comme empruntées à toute la nature vivante, qu'une chevelure, par l'enroulement lisse et les becs aigus de ses boucles, ou dans la superposition du triple et fleurissant diadème de ses tresses, a l'air à la fois d'un paquet d'algues, d'une nichée de colombes, d'un bandeau de jacinthe et d'une torsade de serpent. D'autres encore, colossaux aussi, se tenaient sur les degrés d'un escalier monumental que leur présence décorative et leur immobilité marmoréenne auraient pu faire nommer, comme celui du palais ducal, l'escalier des géants, et dans lequel Swann s'engagea avec la tristesse de penser qu'Odette ne l'avait jamais gravi. Ah, avec quelle joie, au contraire, il eut grimpé les étages noirs, malodorants et casse-cou de la petite couturière retirée, dans le cinquième de laquelle il aurait été si heureux de payer plus cher qu'une avant-scène hebdomadaire à l'opéra, le droit de passer la soirée quand Odette y venait, et même les autres jours, pour pouvoir parler d'elle, vivre avec les gens qu'elle avait l'habitude de voir quand ils n'étaient pas là, et qui à cause de cela lui paraissaient recélés de la vie de sa maîtresse, quelque chose de plus naturel, de plus inaccessible et de plus mystérieux. tandis que dans cet escalier pestilentiel et désiré de l'ancienne couturière, comme il n'y en avait pas un second pour le service, on voyait le soir, devant chaque porte, une boîte aux lait vide et sale préparée sur le paillasson. Dans l'escalier magnifique et dédaigné que Swann montait à ce moment, d'un côté et de l'autre, à des hauteurs différentes, devant chaque anfractuosité que faisait dans le mur la fenêtre de la loge ou la porte d'un appartement, représentant le service intérieur qu'il dirigeait, et en faisant hommage aux invités, un concierge, un majordome, un argentier, braves gens qui vivaient le reste de la semaine un peu indépendants dans leur domaine, y dînaient chez eux comme de petits boutiquiers, et seraient peut-être demain au service bourgeois d'un médecin ou d'un industriel. Attentifs à ne pas manquer aux recommandations qu'on leur avait faites avant de leur laisser endosser la livrée éclatante qu'ils ne revêtaient qu'à de rares intervalles et dans laquelle ils ne se sentaient pas très à l'aise, se tenaient sous l'arcature de leur portail, avec un éclat pompeux tempéré de bonhomie populaire, comme des saints dans leur niche, et un énorme Suisse, habillé comme à l'église, frappait les dalles de sa canne au passage de chaque arrivant. Parvenu en haut de l'escalier, le long duquel l'avait suivi un domestique à face blême avec une petite queue de cheveux nouée d'un catogan derrière la tête, comme un sacristain de Goya ou un tabellion du répertoire, Swann passa devant un bureau où des valets, assis comme des notaires devant de grands registres, se levèrent et inscrivirent son nom. Il traversa alors un petit vestibule, tel que certaines pièces aménagées par leurs propriétaires pour servir de cadre à une seule œuvre d'art, dont elles tirent leur nom, et d'une nudité voulue, ne contiennent rien d'autre. Exhibé à son entrée, comme quelque précieuse effigie de Benvenuto Cellini représentant un homme de guet, un jeune valet de pied, le corps légèrement fléchi en avant, dressant sur son os-col rouge une figure plus rouge encore, d'où s'échappaient des torrents de feu, de timidité et de zèle, et qui perçant les tapisseries d'Aubusson tendues devant le salon où on écoutait la musique, de son regard impétueux, vigilant et perdu, avait l'air, avec une impassibilité militaire ou une foi surnaturelle, allégorie de l'alarme, incarnation de l'attente, commémoration du branle-bas, des pieds, ange ou vigie, d'une tour de donjon ou de cathédrale, l'apparition de l'ennemi ou l'heure du jugement. Il ne restait plus à Swann qu'à pénétrer dans la salle du concert, dont un huissier chargé de chaînes lui ouvrit la porte, en s'inclinant comme il lui aurait remis les clés d'une ville. Mais il pensait à la maison où il aurait pu se trouver en ce moment même, si Odette l'avait permis, et le souvenir entrevu d'une boîte aux lait vide sur un paillasson lui serra le cœur. Swann retrouva rapidement le sentiment de la laideur masculine quand, au-delà de la tenture de tapisserie, au spectacle des domestiques succéda celui des invités. Mais cette laideur même des visages qu'il connaissait pourtant si bien lui semblait neuf depuis que leurs traits, au lieu d'être pour lui des signes pratiquement utilisables à l'identification de telle personne qui lui avait représenté jusque-là un faisceau de plaisir à poursuivre, d'ennui à éviter ou de politesse à rendre, reposaient, coordonnés seulement par des rapports esthétiques, dans l'autonomie de leur ligne. Et en ces hommes, au milieu desquels Swann se trouva enserré, il n'était pas jusqu'au monocle que beaucoup portaient, et qui autrefois aurait tout au plus permis à Swann de dire qu'il portait un monocle, qui déliait maintenant de signifier une habitude, la même pour tous, de lui apparut chacun avec une sorte d'individualité. Peut-être parce qu'il ne regarda le général de Frobertville et le marquis de Bréauté qui causaient dans l'entrée que comme deux personnages dans un tableau, alors qu'ils avaient été longtemps pour lui les amis utiles qu'il avait présentés aux jockeys et assistés dans des duels. Le monocle du général restait entre ses paupières comme un éclat d'obus dans sa figure vulgaire, balafrée et triomphale, au milieu du front qu'il éborgnait comme l'œil unique du cyclope, apparut à Swann comme une blessure monstrueuse, qu'il pouvait être glorieux d'avoir reçue, mais qu'il était indécent d'exhiber. Tandis que celui de M. de Bréauté ajoutait en signe de festivité, aux gants gris-perles, au gibus, à la cravate blanche et substitué au binocle familier, comme faisait Swann lui-même, pour aller dans le monde, porté collé à son revers comme une préparation d'histoire naturelle sous un microscope, un regard infinitésimal et grouillant d'amabilité qui ne cessait de sourire à la hauteur des plafonds, à la beauté des fêtes, à l'intérêt des programmes et à la qualité des rafraîchissements. Tiens, vous voilà, mais il y a des éternités qu'on ne vous a vu, dit à Swann le général, qui remarquant ses traits tirés et en concluant que c'était peut-être une maladie grave qui l'éloignait du monde, ajouta « Vous avez bonne mine, vous savez ?» pendant que M. de Bréauté demandait « Comment vous, mon cher, qu'est-ce que vous pouvez bien faire ici ?» Un romancier mondain qui venait d'installer au coin de son œil un monocle, son seul organe d'investigation psychologique et d'impitoyable analyse, et répondit d'un air important et mystérieux en roulant l'air « J'observe ». Le monocle du marquis de Forestel était minuscule, n'avait aucune bordure et obligeant à une crispation incessante et douloureuse, l'œil où il s'incrustait comme un cartilage superflu, dont la présence est inexplicable et la matière recherchée, il donnait au visage du marquis une délicatesse mélancolique et le faisait juger par les femmes comme capable de grands chagrins d'amour. Mais celui de M. de Saint-Candé, entouré d'un gigantesque anneau comme Saturne, était le centre de gravité d'une figure qui s'ordonnait à tout moment par rapport à lui, dont le nez frémissant et rouge et la bouche lipue et sarcastique tâchaient par leur grimace d'être à la hauteur des feux roulants d'esprit dont étincelait le disque de verre, et se voyait préféré au plus beau regard du monde par des jeunes femmes snobs et dépravées qu'il faisait rêver de charmes artificiels et d'un raffinement de volupté. Et cependant, derrière le sien, M. de Palancy, qui, avec sa grosse tête de carpe aux yeux ronds, se déplaçait lentement au milieu des fêtes, en desserrant d'instant en instant ses mandibules, comme pour chercher son orientation, avait l'air de transporter seulement avec lui un fragment accidentel et peut-être purement symbolique du vitrage de son aquarium, partie destinée à figurer le tout, qui rappela à Swann, grand admirateur des vices et des vertus de Giotto à Padoue, cet injuste à côté duquel un rameau feuillu évoque les forêts où se cache son repère.